me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 14. Mon invitée d'aujourd'hui est encore une femme d'exception. Si je suis content de te la présenter, c'est parce qu'elle est la définition même d'une personne que je qualifie de remarquable. Simplement parce qu'elle a un parcours très étonnant, même très atypique, et qu'elle met sa vie au service d'une grande cause, celle de l'éducation. Après une première vie de comédienne, où elle était là aussi remarquable, elle a fondé une école privée dans Paris pour enfants précoces, et ça fait des années que ça dure, elle va nous raconter tout cela. Sabine Noir, bienvenue.
Salut.
N'aie pas peur, ça va bien se passer. Je suis heureux de te recevoir pour parler de toi, parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'ombre, ce genre de choses, donc ça me touche d'autant plus que tu aies accepté cette invitation. Et puis on va parler d'éducation. Et en parlant d'éducation, moi il y a un type que j'adore qui s'appelait Alexandre Satan-Neil, qui était un grand psychiatre et qui avait fondé une école qui s'appelait, c'était l'école de Summer Hill, qui était une école autogérée, autofondée, mixte en Angleterre dans les années 30, je crois, jusqu'en 70, vers sa mort en 73. Et bref, il était contre une école qu'il trouvait trop soucieuse d'instruire plutôt que d'éduquer. Est-ce que tu es d'accord d'abord? Et est-ce que tu penses que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on est dans une éducation qui est trop soucieuse d'instruire plutôt que d'éduquer?
Bah, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'il faut tout revoir. C'est tout simple. C'est-à-dire que oui. Instruire, c'est instruire quoi? Si c'est au niveau académique, être juste sur les savoirs fondamentaux. Le problème, je dirais aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive même plus à les transmettre, ces savoirs fondamentaux. Donc c'est au-delà de on est trop sur instruire, il faudrait qu'on arrive encore à instruire. L'école d'aujourd'hui n'est plus celle qu'on a connue, toi, moi, des vieux, quoi. C'est pas du tout pareil.
Tu parles pour toi, les vieux, tu veux dire.
C'est ça. Et ce qui est fondamental, je dirais, même au-delà d'éduquer, moi, ce qui me semble aujourd'hui, c'est qu'on arrive à plutôt, c'est plutôt pour moi une notion d'accompagnement, d'accompagner les enfants à trouver quels sont leurs talents à eux, à trouver qui ils sont et du coup qui ils ont envie de devenir et comment ils peuvent y arriver, leur donner les clés pour ça.
C'est justement un petit peu pour ça aussi que je parlais d'Alexandre Satan-Neil, parce que pour les gens qui n'ont pas lu, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Livre aux enfants de Summer Hill », où il se basait aussi beaucoup sur l'éducation, le travail de Rousseau qui s'appelait « Émile ou de l'éducation ». C'est un petit peu ton discours, c'est-à-dire aussi d'aller vers l'enfant plutôt que d'essayer absolument de lui mettre des trucs dans le crâne et peut-être quelque part de l'étouffer.
Surtout que les enfants, si tu veux, ils retiennent 90% de ce qu'ils font. Tout le reste, être dans une attitude passive où on passe notre temps à leur dire ce qu'il faut faire et on ne les aide pas à faire ces choses-là, ça ne reste pas. On sait maintenant avec les sciences cognitives, avec les neurosciences, c'est des choses que, oui, des gens comme Rousseau, comme lui, ont pu élaborer avant, imaginer. Maintenant, on en a les preuves. Le cerveau ne retient pas. C'est comme pour un adulte, si on demande à un adulte de passer 8 heures par jour assis sur une chaise à écouter quelqu'un qui parle, je te garantis qu'au bout de 45 minutes, il décroche. À moins que cette personne ne lui parle de sa passion, et là, il va peut-être lui capter son attention 2-3 heures. Mais après, c'est impossible. Hein. L'être humain, il a besoin de bouger, il a besoin de parler, il a besoin de vivre. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'école aussi, c'est-à-dire de respecter les besoins fondamentaux des êtres humains, et donc du coup des enfants. Et un enfant, ça a besoin de bouger, ça a besoin de parler, ça a besoin de poser des questions, c'est en mouvement permanent un enfant.
Il y a deux traditions dans le podcast. La première, c'est de te demander ce que tu veux boire. Et comme c'est via Skype, c'est virtuel, tu peux demander ce que tu veux, je t'offre ce que tu veux à boire.
Bah, je me prendrais bien un petit Virgin Mojito.
Virgin Mojito, t'as changé, hein.
directrice d'école, hein.
directrice d'école.
Voilà.
Alors justement, donc tu es directrice de l'école Galilée. Donc ça fait combien d'années maintenant qu'elle existe, cette école?
L'école, je l'ai créée en 2010, donc ça va faire 8 ans.
Ouais. Donc alors, pour rappel, l'école Galilée, c'est, je lis un peu ce qu'il y a sur le site, hein. C'est une école privée, laïque, bilingue, anglais, qui propose une pédagogie adaptée aux enfants précoces. Alors, quand on dit enfants précoces, Est-ce qu'on peut dire encore surdoué ou est-ce que c'est un quelque il y a un problème dans le langage?
Alors, il y a un problème dans le langage parce que simplement parce qu'en fait, on a souvent une idée du surdoué, on va dire, entre guillemets, hein, de quelqu'un qui serait au-dessus de la norme, qui sait tout faire, mais qui en même temps est dans son monde, est peut-être un peu bizarre. Enfin, on a tous des fantasmes, en fait, sur ce qu'est la douance et donc la surdouance. L'enfant précoce, enfin, ce qu'on appelle un enfant précoce, il a certaines caractéristiques précises qu'on va retrouver chez chacun, comme un QI qui est donc un quotient intellectuel qui est plus élevé que la norme. Mais ce quotient intellectuel qui est plus élevé que la norme, il s'accompagne aussi d'une hypersensibilité, il s'accompagne d'une vision du monde et d'une façon d'apprendre les choses qui est très différente de la norme. Donc c'est tout un ensemble en fait. Donc un enfant précoce, ça peut être aussi un enfant qui, comment dire? C'est tellement, en fait, il y a tellement de particularités. C'est comme si tu avais un arbre. Tu vois, on va dire, il y a la famille des chênes. Ok, c'est quoi un chêne? Mais tu as 10 000 sortes de chênes différents. Donc là, je t'ai donné deux, trois caractéristiques un peu, on va dire, fondamentales qu'on va retrouver un peu chez tous. Mais après, ils sont chacun différents parce que chaque enfant est différent, tout simplement. Mais que par contre, du fait de leur hypersensibilité, de la Ferrari qu'ils ont dans la tête, c'est un peu comme s'ils avaient une Ferrari dans la tête, mais qu'on leur donnait pas de permis de conduire, on leur donnait pas de leçon de conduite, donc ils savent pas quoi en faire souvent. Donc en fait, c'est difficile pour eux.
Et donc, pour rentrer dans l'école, est-ce qu'il y a une sorte de test? Comment ça fonctionne quand, si je suis un parent avec un enfant dont je sens qu'il y a quelque chose qui est fait que mon enfant est un tout petit peu extraordinaire, extraordinaire?
Ouais. Non, t'as pas de test parce que nous, à l'école, on accueille aussi des enfants qui sont complètement dans la norme. En fait, quand j'ai créé l'école, je voulais créer quelque chose qui soit adapté aux enfants précoces parce que ces enfants-là, ils ont beaucoup de mal dans le système traditionnel. Et je trouvais que c'était un scandale et du gâchis que ces enfants-là soient cassés par le système alors qu'ils ont un potentiel énorme. C'est les talents de demain, c'est le monde de demain. Enfin, ils sont extraordinaires parce que leur hypersensibilité leur donne une empathie incroyable avec tous les autres êtres humains. J'ai envie de dire même au-delà des êtres humains, tout être vivant, parce qu'ils sont pareils avec les animaux, les plantes, tout ce que tu veux. Et donc, simplement, ces petits bouts, une de leurs caractéristiques, c'est que, il faut pas les laisser que entre eux. Parce que le monde n'est pas fait que d'enfants et donc ensuite de jeunes adultes ou de futurs adultes, on pourrait dire précoces. Si on est précoce, on le reste toute sa vie. Hein. Parce que souvent, après le terme surdoué, on l'applique plus aux adultes. Parce que précoce, au départ, c'est voilà, c'est comme les premières petites fleurs du printemps, c'est ce qui vient en premier. Donc on le voit chez les enfants qui avancent plus vite que d'autres dans certains domaines. Mais ça donne en fait des adultes différents aussi. Donc c'est un système qui est particulièrement adapté pour eux, mais de façon plus large, c'est beaucoup plus adapté à tous les enfants. Ils ont tous besoin de ce qui, moi, me semble maintenant primordial à l'école, avant de parler des savoirs académiques, justement. C'est de la bienveillance pour les enfants, de positif, d'être encourageant pour eux, de leur expliquer qu'ils sont capables de tout. Ils ont en eux tous les pouvoirs pour être quelqu'un. Et réussir, ça ne veut pas dire être forcément chef d'entreprise ou autre, hein. C'est réussir, juste trouver qui on est et avoir une vie qui colle à ça, dans laquelle on est heureux. Donc ça, c'est ouvert à tous, en fait. Et pour un enfant précoce qui se présente à l'école, soit il a déjà eu des bilans à l'extérieur par des psychologues, parce que souvent, ça veut dire qu'il a eu un parcours un peu chaotique avant dans le système traditionnel et que, avec ses difficultés, on l'a envoyé voir un psy pour parler un peu à des pâquerettes et qui revient avec ce diagnostic de bah voilà, c'est un enfant précoce, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et puis, mais on a aussi pas mal d'enfants qui arrivent, effectivement, parce que tu as des parents qui disent voilà, on voit bien que mon enfant il est différent, il s'adapte pas comme les autres à un système traditionnel, il trouve ça trop douloureux ou ça peut être des soucis de relation avec des camarades, ou ça peut être il s'ennuie à l'école, il y a beaucoup, beaucoup d'ennuis à l'école. Et là, on ne va pas forcément lui faire passer un test, puisqu'on accueille tout le monde. Et puis ensuite, on peut être un enfant précoce qui, s'il est dans un environnement adapté pour lui, va très très bien. Là, il n'y a pas besoin d'aller voir un psy, quand ça se passe bien.
Et après, dans le cadre de l'école Galilée, quand vous avez des enfants donc précoces, vous savez les encadrer un tout petit peu différemment, parce que moi j'ai pendant 2 3 ans, je crois, j'étais au début de l'école avec toi, je donnais quelques petits cours de théâtre à l'époque. Je voyais effectivement qu'il y avait il y avait certains qui avaient des attitudes. On sentait, voilà, ils ont un grand sens. Il y en avait certains qui avaient un grand sens de l'injustice, qui avaient parfois d'autres une hyper, ultra, hyper sensibilité. Et donc, ça donnait des enfants incroyablement riches sur tous les plans. Mais on se dit, waouh, si on n'a pas les.
Faut
Si,
gérer.
si, ouais, faut savoir gérer. Je me dis, donc, vous devez tous avoir là-dedans vous avez tous une formation, etc., autour de tout ça, j'imagine.
Alors, si tu veux, sur les formations, en France, t'as pas vraiment de formation continue pour les profs sur ces particularités. Enfin, il y en a très peu. C'est souvent des conférences, des interventions d'associations, mais c'est assez léger comparé à ce qui se fait à l'étranger. Donc en fait, nous, on est venu enrichir ça de tout un tas d'autres formations. De formations en communication non violente, sur la gestion émotionnelle pour les enfants, on entend de plus en plus parler maintenant avec School à vie aussi sur le bien-être à l'école, sur beaucoup de choses que fait Jeanne Ciot-Fachin, qui est une psychologue qui est assez connue autour de la précocité, qui a écrit beaucoup de livres, qui parle beaucoup aussi de bienveillance, de méditation. C'est vraiment sur la gestion émotionnelle. Et ça, donc effectivement, ouais, c'est un accompagnement particulier avec les enfants. Ça demande de prendre du temps, beaucoup de temps, et d'avoir une équipe qui est très à l'écoute des enfants. Et être à l'écoute, ça ne veut pas dire les laisser faire n'importe quoi, hein. Ça n'empêche pas d'être très ferme, très cadrant, mais avec plein de petits outils. Alors, c'est difficile de donner la liste des outils comme ça. Mais par exemple, en classe, ils ont le coin du bonheur. Le matin, ils ont comment je me sens, où tout le monde parle. Ils ont, à n'importe quel moment de la journée, ils ont des petits panneaux dans les classes où ils peuvent aller mettre leur nom sur une émotion. On leur apprend à développer leur intelligence émotionnelle, leur vocabulaire là-dessus. Parce que quand tu comprends ce que tu ressens, que tu sais le dire, et qu'ensuite, bah, ça te permet de comprendre aussi ce que ressent ton voisin. Et ça réduit justement les charges émotionnelles énormément. Ça zénifie beaucoup, tu vois, on pourrait dire.
Et justement, donc aujourd'hui dans l'école Galilée, il y a des enfants de quel âge à quel âge?
Alors aujourd'hui, on va de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans. Voilà, donc c'est de la toute petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et là, cet été, enfin là, on est en train, donc à la rentrée, on aura des sixièmes, cinquièmes. On ouvre le collège. Et l'année d'après, on ouvrira les quatrièmes, troisièmes. Donc, on ira déjà jusqu'à la fin du collège. Et on déménage tous nos locaux dans un super bel immeuble, rue Chardon-Lagache, voilà, qui va être tout beau, tout neuf à la rentrée. Là, c'est le bazar monstrueux des travaux. C'est la partie pas fun.
Ça, c'est où?
Mais
Ça sera dans le 16e? Ça sera dans le 16e aussi, c'est
ouais,
ça?
c'est toujours dans le 16e. On a réussi à trouver à 5 minutes à pied de l'école. Donc, on déménage tout là-bas. Et là, ça va être top parce qu'on va avoir aussi plein de formations pour les enseignants, beaucoup plus d'espace. Ils vont pouvoir faire de la radio, on va faire un ciné-club, on va faire des ateliers d'écriture, il faudra qu'on en reparle. On va faire, voilà, parce que c'est des enfants qui, enfin eux, mais comme tous en fait, si tu veux, je dis c'est des enfants, mais tous les enfants sont pareils. Nous, ce qu'on essaye de faire dans l'école, c'est que tu as les savoirs fondamentaux. Il faut savoir lire, compter, écrire. OK. Là où on est exigeant aussi, c'est sur la langue française, nous, parce que ça, c'est cher à mon cœur. Comme tu le disais, un passé de comédienne et avant d'être comédienne, c'est surtout un passé littéraire, de lecture, d'écriture. C'est ça qui m'a amenée au théâtre. Donc, la langue française, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se dégrade, hein, terriblement. Les jeunes ne savent plus écrire, ne savent plus lire non plus. Enfin, en tout cas, ne savent pas lire un vocabulaire, on dirait un langage soutenu, tu vois. T'as qu'à voir, t'as beaucoup, beaucoup de livres pour enfants maintenant que nous, on a connus, qui étaient écrits au passé simple. Ils sont tous ressortis maintenant dans des nouvelles éditions où tu n'as que de l'imparfait parce que ça serait trop dur, le passé simple. Donc ça, par exemple, nous, on refuse, tu vois, on va être... voilà, on va dire que si on a une exigence vraiment de niveau, ça va être là-dessus. sur ces aspects-là. Il n'y a pas de raison que les générations d'aujourd'hui soient moins capables que nous on l'a été ou nos parents. C'est pas possible. Les générations d'aujourd'hui sont encore plus intelligentes, ont encore plus de capacités qu'il y a trois générations en termes de capacités, tu vois, d'apprentissage. Mais au-delà de ça, par contre, ce qu'on trouve fondamental, c'est l'ouverture sur le monde. Donc, il y a plus d'une dizaine de nationalités dans l'école, et donc il y a l'anglais, parce que ça, c'est une compétence qui est essentielle aujourd'hui. Bon, il faut être capable d'aller partout pour si on veut trouver du boulot. Et puis, d'avoir une ouverture culturelle sur le monde. Donc c'est pour ça que nous, dans l'école, on met le théâtre, le cinéma, ils ont l'histoire de l'art à partir de la classe de CP. Et c'est fondamental. C'est ce qui permet de comprendre les autres, c'est ce qui permet de pas avoir peur des autres, de comprendre le monde qui nous entoure. Et on vit dans un monde qui est super difficile en ce moment, qui est hyper violent. Donc c'est important de donner à cette génération des outils, d'être bien outillé pour la suite. Ouais.
Justement, je rebondis, tu dis c'est un monde hyper violent, tout ça. Est-ce que lors des attentats qu'il y a eu en France il y a quelques temps, est-ce que vous avez fait ce travail aussi pour expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passait et comment vous l'avez fait, par exemple?
Bah, ça, c'était... Alors, en plus, nous, comme on a beaucoup, beaucoup d'hypersensibles, bon, je pense que dans toutes les écoles, de toute façon, c'était compliqué, mais nous, on a eu vraiment des enfants traumatisés, qui, voilà, de parce qu'ils voyaient à la télé. Donc là, on a vraiment utilisé un outil qui est très puissant, qui est la communication non violente, qui est une façon de gérer, de comprendre les émotions, très pacifique, qui a été créée par Marshall Rosenberg, qui est un psy américain, ça vient des États-Unis, c'est beaucoup plus utilisé là-bas. Et alors là, te résumer comment on fait avec les enfants, c'est un peu compliqué comme ça, mais c'est pareil, on est dans la notion de... Nous, on y a passé, par exemple, une journée entière, en fait. On n'est pas resté sur les apprentissages, Et on n'a parlé que de ça. Et en fait, quand tu utilises cette méthode, c'est pas tellement l'adulte qui parle. C'est plutôt sous forme de questions. Et on laisse vraiment la parole libre, libre, libre aux enfants pour qu'ils sortent tout ce qu'ils ont à sortir. Et tu vois, quand il y avait eu aussi les trucs sur la caricature, l'attentat avec Charlie Hebdo, et ben, un truc, moi, qui m'a frappé, c'est qu'on a un petit bout qui nous a dit « je veux plus faire de dessin ». Parce que quelqu'un pourrait trouver que mes dessins sont, je ne sais plus comment il avait dit ça, mais pendant X temps, il refusait de dessiner. Et donc ça, après, c'est tout un travail d'accompagnement, en fait, de détente de l'enfant, de rassurance. S'il se sent en sécurité, il y a un moment où il arrive à digérer, on va dire, ce qui s'est passé, ou en tout cas sortir de ses fantasmes de peur.
Ouais, c'est passionnant. Alors aujourd'hui, ton école, elle a des, sur ce que je lis, elle a en tout cas des résultats incroyables. Je vais pas faire la pub, hein, mais ça
non,
fait,
non,
il y a 100% de réussite au Cambridge English Exam. Enfin, je vois plein de trucs. Aujourd'hui, c'est une école qui fonctionne vraiment bien. Et puis du fait que vous vous agrandissez, ça montre aussi que ça va vraiment bien. Donc, t'es une directrice, j'imagine, heureuse.
Ah oui. Oh, je suis contente d'y aller tous les jours, mais c'est comme le théâtre, c'est les plus beaux métiers du monde. C'est presque le même métier, hein. C'est, ah non, mais vraiment, c'est déjà quand tu es enseignant, tu captiver une classe, la passionner, faire en sorte que l'apprentissage soit ludique, c'est une salle de spectacle. Si tu veux vraiment qu'il y ait quelque chose avec les enfants, puis tu as donné des cours de théâtre à des enfants, tu vois, c'est dans un personnage. Mais... Et puis, il n'y a pas de plus belle, je crois qu'il n'y a pas de plus belle reconnaissance sur Terre que de donner de son temps et de son amour à des enfants. Personne ne le rend mieux sur Terre que des enfants. Ah, c'est mon humble point de vue, c'est mon ressenti. Mais,
non, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et toi, en tant que t'es directrice, mais tu donnes aussi des cours.
Oui, alors là, par contre, je vais me calmer sur les cours, je n'ai plus trop avoir le temps, mais oui, je suis restée enseignante. Ouais.
Et justement, c'est là je fais un petit peu le, je remonte le temps parce que là on parle d'aujourd'hui. Et en fait, moi je voulais revenir à pourquoi tu as créé cette école en fait à la base.
Alors pourquoi j'ai créé cette école? Bah, après mon parcours littéraire, on va dire théâtral, j'ai enseigné. Je me suis retrouvée dans une école internationale avec des publics d'enfants qui venaient de partout sur Terre. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'avais dans mes classes des enfants atypiques, différents, pour qui je me disais, il n'est pas cohérent de continuer à leur demander de rentrer dans un cadre et dans un moule, en fait, qui les casse, au lieu de leur permettre de s'épanouir. Donc, il doit y avoir d'autres choses à proposer, d'autres choses à trouver, tu vois. Et puis, parallèlement, enfin, quasiment en même temps, au niveau du timing, je suis devenue maman. Donc, ça a été un grand bouleversement dans la vie aussi. Et il se trouve qu'il s'est avéré par la suite que j'étais maman d'une enfant précoce. Donc, on va dire que j'ai eu la double casquette et parentale et professionnelle de ce parcours, de cette différence chez les enfants. Et je voyais ma petite fille qui s'épanouissait pas du tout dans le système traditionnel. J'ai découvert plein de choses du système traditionnel qui m'ont énormément choquée. Et donc, et en tant que parent et en tant qu'enseignant, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui existent ailleurs qu'en France, plein d'autres façons de faire, très intéressantes. Il faut que nous aussi, on puisse proposer des alternatives à tous les enfants qui ont un besoin fondamental que ça se passe autrement pour eux. Après, t'en as plein qui s'adaptent très bien, bon an, mal an. Et puis d'autres pour qui c'est un parcours douloureux, et ça m'a semblé injuste.
Et donc à partir de là, tu t'es dit, bon allez, on va monter l'école, mais j'imagine que c'est un parcours délirant. C'est hyper compliqué de monter une école privée.
Bah, oui, il faut trouver des sous, il faut trouver des locaux, il faut avoir les autorisations de l'État, il faut c'est beaucoup beaucoup de démarches, qu'on a préparé tout ça pendant un an et demi avant l'ouverture. Et puis oui, il fallait y croire très fort parce que avec le recul, je ne sais pas si je le referais. Ouais. Interdit.
Ouais.
De fatigue, d'administratif, pour tout le reste, ouais, pour le quotidien, oui, bien sûr, je le refais à 100%.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont été au début de l'école Galilée que tu revois ou dont tu as des nouvelles?
Ah bah tous,
Tous, ouais.
ah ouais, tous, tous, tous. Alors bah nos anciens, comme nous on n'avait pas de collège et de lycée, ils sont dans des très bons collèges et lycées parisiens. On en a qui sont à l'étranger aussi. On reste en contact avec eux. Et bah, ça c'est un vrai bonheur. Et puis bah là maintenant ceux qu'on a chez nous, ceux qui veulent rester, on va pouvoir les garder au collège. Donc ouais, non, il y a des enfants qui sont il y en a que je revois en dehors aussi, qui voilà, des parents qui disent ok, ça a changé nos vies, ça nous a sauvé la vie ou des trucs comme ça. C'est Ouais, c'est pour ça vaut le coup.
Il y a combien de personnes qui travaillent à l'école Galilée aujourd'hui?
Bah écoute, là on était une dizaine, donc ça restait quand même une petite structure, et puis là à la rentrée on passe à une vingtaine, donc c'est un gros palier.
Ah ouais.
Un gros palier, ouais.
Énorme. Félicitations, hein, non, non, moi c'est vraiment, je trouve que effectivement c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir sur le podcast, parce que ce que tu fais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement remarquable. Je t'ai vu travailler aussi. On se connaît depuis plus de 20 ans, toi et moi, malgré le fait
Déjà?
qu'on soit si jeune. C'est
Vrai
ça.
que t'étais plus jeune que moi.
Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est que tous les enfants qui passent par l'école Galilée n'auront jamais une directrice d'école aussi belle et sexy que toi.
Merci, je prends. C'est rare
Ouais,
les
mais
compliments qu'il
je
faut
t'en
prendre.
prie, je t'en prie. Il y a un petit personnage dans le podcast qui est une petite souris. Et cette petite
Ah
souris,
oui?
généralement, elle suit mon invité dans une journée pour voir comment mon invité travaille, qu'est-ce qu'il fait de sa vie sur une journée. Alors, si je suis cette petite souris, qu'est-ce que je vois de Sabine Noir dans son travail de directrice d'école?
Alors, nous sommes lundi matin, Sabine Noire se lève vers 6 heures, elle s'occupe d'abord de ses deux filles intensément, elle se speed, elle range tout. Voilà, elle a aussi sa vie de maman chargée. Ensuite, on court, on fonce à l'école pour être là à l'ouverture et voilà, avant que les familles n'arrivent pour certains jours. Et après, bah, une journée, alors quand j'ai une classe en plus en tant qu'enseignante, et une journée de classe normale avec tes élèves, c'est déjà intense. Et puis ensuite, c'est le téléphone qui sonne tout le temps, les rendez-vous de parents, les familles à aider, à écouter, c'est beaucoup de temps. En fait, c'est beaucoup de temps sur une journée. L'organisation aussi, parce que gérer une école, c'est gérer une équipe, c'est un côté un peu entreprise. Tous les aspects administratifs, ça c'est la partie dans laquelle je m'amuse le moins, avec elle-même je ne m'amuse pas du tout, mais voilà, faut bien le faire. Et puis une partie de la journée aussi où tu vas être, où tu as toutes les idées qui fusent dans la tête, plein de projets, plein d'envies, trouver des nouveaux ateliers pour les enfants, trouver des sorties, des trucs, voilà. Les moments formidables où entre deux portes, le câlin d'un enfant qui passe, le petit bout qui frappe à la porte du bureau qui s'est fait un bobo, celui qui a envie de parler, celui qui veut qu'on appelle papa ou maman, quel que soit l'âge, ça n'a pas d'âge, ça. Donc c'est comment dire, c'est très foisonnant, très fusionnant, c'est volcanesque, on pourrait dire. C'est très intense, tu vois pas les journées passer, ça c'est certain. Et c'est surtout rempli d'énormément d'humanité, que ce soit dans des moments le problème pour certains enfants, ou dans des moments de joie immense, ou dans des moments de grande solitude, quand je me suis coupé les cheveux à Noël et que j'ai changé de couleur, et que j'ai récupéré ma classe, et qu'il y a un enfant qui a pleuré dans ma classe en me demandant pourquoi j'avais mis une perruque. Voilà, tu passes du banquier à qui te demande des sous pour les projets au petit bout qui dit je veux qu'on me rende ma maîtresse, c'est pas la même qu'avant Noël, quoi. Voilà.
Ouais. Donc ça te fait des journées échargées et en même temps, enfin, c'est assez hétéroclite quoi comme journée. Tu vois
ah,
effectivement un petit peu
totalement.
de tout.
C'est Shiva.
Ouais.
Shiva. C'est Shiva,
C'est un
voilà.
peu la routine de l'imprévu, quoi.
C'est ça. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'est le théâtre. Tu
Ouais.
vois, c'est pour ça que pour moi c'est hyper en lien avec le théâtre, parce qu'en fait c'est pareil quand quand t'es en répète, quand tu travailles une pièce, que tu la montes et que tu es devant un public tous les soirs, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est la même pièce, mais c'est jamais la même journée, c'est jamais la même représentation. Et une journée d'école n'est jamais la même que la précédente. Moi, c'est ça que j'adore.
Alors justement, tu parlais de théâtre, et comme je remonte le temps dans cet épisode avec toi, il fut un temps où Sabine Noir était une comédienne elle aussi remarquable. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Nous, on s'est connus à l'époque de la fac à Nanterre, hein, pour tout dire. C'était une autre époque. Tu as été comédienne et c'était quoi ton parcours? C'est que tu avais fait les cours Viriau, hein, c'est ça?
Ouais, j'avais fait ça, j'avais fait lettres modernes, art du spectacle, j'ai pris des cours chez Périmonie aussi.
Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une part de regret ou absolument pas? Enfin, j'imagine la réponse vu ce que tu nous as dit juste avant. Mais est-ce qu'il y a une forme je vais pas dire de. Non, pas de regret, mais est-ce que tu dis, tiens, j'ai pas achevé ce truc-là? En même temps, la vie est longue encore, hein. Et t'es jeune.
Ouais, non, non, je me dis pas du tout ça. Non, non. Ça a été vraiment, je pense que si tu veux l'enseignement, enfin, l'arrivée de ma fille a fait que tout simplement je voulais être là pour elle le soir. Pas avoir des. C'était vraiment très pragmatique, hein. Je ne me suis pas posé de questions en me disant j'arrête ou j'arrête pas le théâtre. C'est voilà, j'ai ma fille qui arrive, ça devient pour moi la chose la plus fondamentale et importante. C'est un être vivant. Et au travers d'elle, bon, j'avais déjà un regard très, je pense, très particulier sur les enfants. Déjà ado, je voulais être éducatrice de jeunes enfants, j'avais être juge pour enfants. Enfin, je pense que tu vois, j'avais de toute façon un fond enfant. Je sais pas, un fond enfant. De toute façon, je pense que si tu fais du théâtre, c'est qu'il y a une part de toi, la part de toi enfant, qui est toujours là aussi. Donc ça, pour moi, c'est complètement lié. Donc non, je me suis pas dit j'arrête. La vie a fait que j'ai pas eu, même si des fois d'ailleurs tu me l'as proposé, de retravailler, de monter sur scène. Après, c'était plus une question de temps, d'opportunité, voilà, de planning trop chargé. Mais j'ai aucun regret par rapport à ça. Comme tu dis, déjà la vie est longue, donc il n'est pas du tout exclu qu'un jour, vraiment. Mais c'est vraiment juste par pur plaisir, par pur kiff de se dire, bah tiens, tu fais un truc avec des potes et vous faites un truc sur scène, tu vois. Mais j'ai jamais l'impression d'avoir arrêté, si tu veux. J'ai l'impression d'être au théâtre tous les jours, en fait. Alors, et j'ai l'impression qu'en plus, quelque part, ça c'est pas gentil ce que je vais dire pour le public du théâtre, qui est souvent est adulte et a payé sa place et tout. Mais j'ai l'impression que le public que j'ai à l'école des familles et des enfants est tellement plus important. En termes d'humanité, tu vois, en termes de besoins, de choses qu'on peut apporter aux gens. Non, j'ai pas une once de.
Oui, il n'y a pas de sentiment d'inachevé, quoi.
Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Et tu vois, j'ai toujours mes textes de théâtre, de Virio, de Périmonie, j'ai tes scénarios, j'ai les pièces qu'on a faites, celles d'autres amis, etc. Quand je retombe dessus, j'ai encore le phrasé en tête, les images, les trucs. C'est un grand plaisir, tu vois. Il n'y a jamais de nostalgie, il n'y a pas tout ça. C'est juste une continuité. Pour moi, c'est une continuité différente, une évolution, tu vois.
Alors, on arrive à la fin de cet épisode et comme tous les épisodes, je les termine par quelques questions auxquelles tu réponds aussi simplement que possible. Ok?
Marche.
Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction?
Oh, mais je hurle de joie. Bah, attends. Ou alors la question c'était qu'est-ce que tu fais avec l'argent?
Non, quelle est ta
Non,
réaction?
juste
Ça me
ah
va.
bah c'est une émotion de joie intense, enfin. Ne soyons pas ne nous mentons pas.
Y a-t-il un livre, un film ou une chanson, ou les trois, qui a changé ta vie?
Ouais, un livre.
Ouais.
S'appelle Chien perdu sans collier. Alors l'auteur, je ne m'en rappelle plus, parce que je
Ah.
l'ai lu, j'avais 12 ans, mais je crois que ça a déclenché ce truc avec l'enfant en moi. Et ce que je peux te dire, c'est que il y a une phrase à la fin du livre. On m'a réoffert ce livre il y a quoi, 3 ans. Donc je l'ai lu une fois quand j'avais 12 ans et je l'ai relu voilà, il y a 3 ans, juste avant l'arrivée de ma deuxième fille. Et il y a 3 ans, j'ai fondu en larmes de manière, je sais pas, comme ça m'était pas arrivé depuis que j'étais enfant, sur la dernière phrase du livre, qui est « Les enfants meurent du manque d'amour ». Donc je pense que ce livre a changé ma vie, mais quand j'avais 12 ans en fait. Et je ne l'ai compris qu'il y a 3 ans.
Si aujourd'hui tu ne faisais pas ton métier, tu ferais quoi?
Ah bah je ferais saltimbanque avec grand plaisir.
Quel est ton plus bel échec?
Ah, alors de ne pas avoir fait de longues et hautes études, ça m'a permis de faire tout le reste.
Quel est ton endroit préféré au monde?
Allongé dans l'herbe sous un pommier en Normandie, dans un petit jardin à Cailly-sur-Eure.
Je vois bien.
Tu connais?
Je connais cet endroit aussi. Ouais. Y a un mot en anglais qui s'appelle le motto, qui est un peu la devise, un peu au quotidien, enfin une phrase qui te motive tous les jours. C'est quoi ton motto à toi?
Merci.
Enfin, quel est ton mot préféré?
Merci.
Au moins, c'est cohérent.
Bah, je te réponds du tac au tac, hein. C'est peut-être. Ouais, il y a. Ouais, merci. Je pense que c'est mon mot préféré. Peut-être avec je t'aime aussi. Les gens ne se le disent pas assez.
J'imagine que les enfants de l'école Galilée savent dire merci avec le cœur aussi.
Ah ouais, c'est surtout avec le cœur, avec les gestes, avec les yeux, avec c'est un merci qui se vit, qui est incarné.
Alors, aujourd'hui, avec le déménagement de l'école, qu'est-ce qui va se passer là dans le futur? Est-ce que c'est une grosse année de transition qui arrive?
Ouais, bah après on n'est pas inquiet parce que il y a tellement de là on avait tellement de gens qui demandaient qui n'avaient pas de place que finalement on évolue avec la demande. Donc ça là-dessus voilà. C'est surtout la joie que là, je m'associe avec quelqu'un, une femme qui est formidable, qui s'appelle Céline, que j'ai rencontrée il y a 3 ans, qui donc rejoint l'équipe et amène aussi dedans plein de choses. Et on a énormément de projets, justement aussi de formation d'enseignants sur le bien-être à l'école. Là, ça. Voilà, on se dit que tout ce qui a été construit là et qui fonctionne, qui fait qu'il y a des enfants, en tout cas pour un certain nombre d'enfants, ils sont plus heureux qu'avant, et c'est le seul objectif. On va pouvoir le multiplier, tu vois, le multiplier, et puis continuer toujours de s'améliorer, de se perfectionner, de répéter, quoi, petit peu.
C'est bien parce que tout est un peu artistique avec toi. C'est ça que j'adore.
Bah, peut-être, peut-être.
Mais peut-être que toi tu vas
C'est
me
toi qui
dire,
me dis,
oui, mais
mais
toi tu vas me dire, la vie est artistique, l'univers est artistique.
ah ben bah, oui, bah, t'as tout résumé exactement. Nous, on fait juste partie de ce grand tout. Donc après, à nous de surfer sur les vagues. Hein.
Bah, autant tu m'as donné envie de faire du théâtre, autant c'est toi qui m'as appris la notion de l'univers. Hein. Avec les choses qu'on envoyait, les choses qui nous revenaient, etc. Mais pas toujours à l'endroit auquel on s'attend.
Ouais, mais en fait, tu verras que même quand on s'y attend pas, moi j'ai traversé des périodes très difficiles aussi ces dernières années. Et il y a cette fameuse phrase qu'avaient peut-être nos grands-parents, des générations un peu d'avant, phrase un peu concon de bah tiens, c'est un mal pour un bien. Bah souvent c'est exactement ça. On comprend pas toujours ce qui se passe, mais ensuite on s'aperçoit que tout est parfait.
Très bien. Bon, on va arrêter là-dessus, parce que c'est une très belle conclusion. Merci Sabine d'avoir participé à cet épisode.
Merci Moulu.
Oui, voilà, je suis le Lu de Sabine.
Eh
Comme
bah
ça,
écoute.
tout le monde le sait. quant à toi, la compagnie, partage, commente, dis-moi ce que tu penses aussi de cet épisode et de tous les autres. À chaque épisode, il y a un peu plus d'écoute et d'abonnés. J'en suis ravi. Merci à toi. Ça me donne envie d'aller un petit peu plus loin et de continuer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. Salut, la compagnie.